Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et motbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Ben alors, Roby, Joseph, bonjour!
Bonjour.
Ça va bien?
Bien, et toi?
Ça va super bien. On est ici dans ton restaurant Cuisine Tropicale à Sudbury.
Bienvenue.
Merci beaucoup, ça sent super bon. Dommage que les gens puissent pas être en odorama. T'es ouvert toute la semaine, c'est quoi tes heures ici?
On ouvre du mardi au dimanche, donc on garde lundi pour préparation, nettoyage, tout ça.
Bon, ben, donc tu travailles lundi quand
sur
même.
7 sur 7, oui.
Ouais, 7 sur 7.
Oui.
Puis c'est ouvert le soir aussi?
C'est ouvert jusqu'à 9h, en jeudi, de mardi à jeudi, et puis vendredi, samedi à 10h.
OK.
Dimanche, c'est 8h.
Bon, ben c'est ici qu'on vient souper ce soir. C'est réglé. Toi, tu viens d'Haïti, de Port-au-Prince. T'es né un 23 juillet de quelle année?
1965.
D'accord. On a presque le même âge. Et puis, tu as eu un premier diplôme technique en fabrication métallique là-bas, à Port-au-Prince?
Oui.
Puis après ça, deux certifications en soudure spéciale en Colombie. Donc déjà, tu avais déjà comme immigré quasiment une première fois en Colombie.
Bon, c'était juste une formation. Je suis passé étudier. Okay. Je n'étais pas immigrant.
Okay.
Donc une fois la formation terminée, je devais retourner chez moi.
D'accord. Et puis après ça, tu es venu au Collège Boréal à Sudbury. C'est ça? Un bac en service social de l'Université Laurentienne, toujours à Sudbury. Donc à Sudbury, tu as fait deux formation.
Oui, mais je ne suis pas sorti de Haïti, Colombie, pour venir à Sudbury.
Non.
J'ai vécu à Toronto 10 ans.
OK.
Donc, j'ai travaillé à Toronto en tant que soudeur dans, okay. dans une compagnie. Donc, et puis après 10 ans, je me suis dit, j'ai envie de changer d'activité. J'étais un peu tanné avec ce travail-là. Et puis, je me suis dit, bon, pour se lancer dans une nouvelle carrière, ça prend de nouvelles formations. J'ai décidé que j'allais reprendre les études.
OK.
Donc, une amie m'a guidé pour venir à Sudbury pour faire un diplôme en technique de génie civil et minier au Collège Boréal.
Est-ce que tu as l'impression que dans certains pays, l'immigration, partir, refaire sa vie, c'est presque, on le sait depuis l'enfance, quoi?
Ouais. Des fois, on repart à zéro. Des fois, on repart à zéro. Des fois,
si toi, est-ce que c'était clair depuis longtemps que tu allais partir d'Haïti ou...
Oh non.
Non,
au contraire. Au contraire, c'est quelque chose que j'avais toujours refusé. Je suis peut-être le dernier de ma famille à quitter Haïti. Et j'avais renoncé à toutes les opportunités, à tout ce qui m'avait été offert. Parce que moi, je suis plutôt, je m'attache à mon environ, mon endroit là, mon milieu, et puis ça va. Maintenant, quand j'ai dû quitter Haïti, c'est dans un premier temps, je me suis rendu aux États-Unis. En 1994, pour tenter d'y rester. Mais je n'ai pas aimé la vie de ne pas avoir des documents légaux pour travailler comme ça. Je suis retourné chez mon Haïti après 8 mois. Maintenant, ma rentrée au Canada, c'était une affaire familiale. J'avais une fille que ma mère avait amenée au Canada avec elle, qui vivait chez mon frère. Et puis, il paraît qu'elle avait des troubles, des petits problèmes d'adolescence comme ça. D'où ça prend un parent prêt. Et la mère avait déjà été disparue. Et puis, donc, je me suis dit, donc, tu dois prendre une décision. La ramener chez nous, en Haïti, ou la rejoindre ici au Canada. Ma mère a dit, pas question qu'elle retourne en Haïti. Donc, je devais tout sacrifier en Haïti pour venir au Canada, pour elle.
Mm. Et puis, est-ce qu'elle est encore avec toi, ta fille? Elle a quel âge maintenant?
Oh non, c'est une dame d'une trentaine d'années. Et puis, elle vit à Toronto, elle fait sa vie.
D'accord. Alors maintenant, mission accomplie, ta fille, ça va bien. Puis
oh,
toi,
oui.
t'es ici, mais au départ, t'es partie d'Haïti. Bon, pour elle, mais les troubles en Haïti, tout ça, est-ce que ça t'atteignait? Est-ce que ça te dérangeait là-bas?
Bon, on a des Haïtiens, on a encore de la famille éloignée, on a des amis avec qui on a grandi, qui sont encore dans le pays. Donc, quand on entend ce qui se passe en Haïti, de toute façon, on se sent vraiment touché. Ça, c'est une partie. L'autre aspect, c'est que nous, les immigrants, bon, particulièrement pour moi et la plupart des Haïtiens, le fait de vivre à l'extérieur, c'est une chose, mais on doit avoir la possibilité de retourner chez soi de temps en temps. Parce qu'on garde le contact, on garde beaucoup de contact avec les gens là-bas. Et puis, on aime, quand on a ces deux semaines de vacances, il y en a qui ont un mois, et puis on prend l'avion, on part. Donc, c'est donc une Haïti maintenant qui se retrouve dans une situation où ce n'est pas vivable, donc les gens, on ne peut pas y aller, ça dérange beaucoup.
Mm-hmm. Puis, toi, quand tu es arrivé à Sudbury, est-ce qu'il y avait déjà une forte communauté haïtienne ou pas tant?
Au contraire, mon arrivée à Sudbury a été un peu... le début, c'est... Bon, un début, on ne va pas t'accueillir à la gare avec une épée ou des armes ou du poison. Donc, tu viens, des fleurs. Mais quelques temps après, tu vas devoir faire face à une nouvelle réalité. Parce que moi, quelques mois après, j'ai dû me trouver dans la rue en tant que sans-abri. Parce que j'étais victime d'une incompréhension du programme de deuxième carrière qui allait suspendre les fonds de avril à septembre, dont je ne savais pas. Peut-être que c'était dans les contrats que je n'ai pas remarqué. Moi, j'attendais qu'on m'envoie de l'argent pour payer le loyer, parce que j'avais encore une autre fille avec moi de 14 ans. Donc, au lieu de recevoir l'argent, j'ai reçu une lettre pour dire que de avril à septembre, il n'y a pas d'argent.
Ça, c'était à Toronto?
Ici à Sudbury.
Ici à Sudbury?
Oui. Je suis entré à Sudbury en septembre et c'est arrivé en avril.
Oh my God!
De septembre 2013 à avril 2014. Donc, j'ai dormi dans ma voiture. J'ai partagé un canapé avec un chien chez une amie. Donc, le chien dormait le jour sur le canapé, le soir, c'était mon tour. J'aime dire ça. Hein,
parce que... ouais, c'est, l'image est forte. Hein?
Oh, oui, oui,
c'est comme ça que tu te sentais.
Oui. Et des fois, je prends ma voiture, je ne pouvais pas payer les assurances pour aller à Toronto juste pour avoir un peu de répit. C'était en vacances d'été. Donc, je pars visiter une amie, mais c'est juste parce que j'ai besoin d'un endroit pour passer des jours. Donc, j'ai vécu comme ça jusqu'en septembre. Et
comment as-tu réussi à reconstruire l'espoir, la capacité de t'en sortir, parce qu'on est à terre hein, dans ces temps-là?
Bon, je savais que c'était passager, parce que c'est dès septembre, dès la reprise des classes, donc j'allais recevoir encore les fonds. Donc, depuis fin août, je commençais déjà à chercher des appartements ici à Sudbury pour me reloger. Et c'était arrivé un peu en retard. Heureusement qu'il y avait un fonds spécial au Collège Boréal. Je suis parti là-bas, j'ai expliqué la situation. Ils m'ont avancé un peu d'argent pour payer un appartement. Tout est repris dans l'ordre. Mais avant ça, j'ai connu les shelters, j'ai connu beaucoup de vies difficiles. Et puis, je me suis dit, bon, Roby, débrouille-toi pour que ça n'arrive plus aux autres Haïtiens qui vont arriver ici à Sudbury. Donc, voilà pourquoi... Les premières personnes que j'aurais à rencontrer, les premiers Haïtiens que j'aurais à rencontrer, je leur ai dit, écoutez, on doit s'organiser, on doit s'arranger, on doit créer une organisation d'entraide pour que si quelqu'un arrive, au moins on peut l'accueillir et l'aider avec ses problèmes.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement?
Concrètement, on a fondé les ressources haïtiennes de Sudbury, c'est une organisation, depuis 2016. Et jusqu'à présent, on est là. COVID nous a un peu ralenti, mais on fait des activités socio-culturelles. C'est juste créer des opportunités de se rencontrer. On se rencontrait beaucoup avant COVID.
Que la personne sache qu'il y a d'autres personnes haïtiennes qui vivent ici, sur lesquelles il peut compter.
Oh oui. Et malgré il y a des membres qui n'étaient pas trop sur la même longueur d'onde avec moi, au niveau de mission, je leur ai dit, écoutez, et cette organisation, c'est comme une terre, c'est comme Haïti. Dès qu'un enfant naît, il est haïtien, qu'il ait déjà son acte de naissance ou pas, il est né en Haïti, il est haïtien. C'est comme ici. Dès qu'un haïtien s'amène à Sudbury, il fait partie de l'association.
Mm-hmm.
Qu'il sache qu'il y a une association ou pas, il fait partie de cette organisation. Donc, mon téléphone, mon numéro de téléphone est en speed dial. Je ne sais pas comment dire ça en français, là. C'est le
toujours
numéro...
ouvert.
Tout ouvert. Speed dial. Pour tout le monde. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre dans ce bureau, on dit, hey, appelle Roby. Voilà le numéro de Roby.
Wow.
Et moi, je suis là. Des fois, j'aiguille, j'envoie d'autres personnes qui sont disponibles. Mais le plus souvent, c'est moi qui loge. Je loge. Je prends ma voiture. Je fais des courses avec. J'accompagne à l'hôpital. J'accompagne partout. Tout ce qui arrive là de nouveau. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible que quelqu'un arrive ici qu'il doit vivre ce que j'ai à vivre parce qu'il connaît personne.
Mm-hmm.
Voilà pourquoi, moi, quand je rencontre quelqu'un ici, là, à Sudbury, ben, ici même au restaurant, j'écoute l'accent, c'est lui, là, il sonne comme un haïtien. Est-ce que tu es haïtien? Oh, oui, je suis haïtien. Ah bon, il y a une organisation ici, hein? Il y a une association. Si tu as des problèmes, quelque chose, viens me voir.
Ah, c'est merveilleux. Ça veut dire que ton adversité, là, tu l'as transformée en solidarité.
Oui, en solidarité, c'est ça le mot.
C'est formidable. Ouais. Quelle personne extraordinaire tu es, Roby.
Juste Roby.
Oui, mais juste Roby, c'est déjà beaucoup. Mais, c'est ce que je veux dire.
En venant, en naissant, c'est un instant, pour moi, c'est ça la mission de vivre.
Ouais.
D'être un être humain, c'est quelqu'un qui doit se sentir utile. Vivre sa vie, c'est vrai, on a de la joie, on a le bonheur, mais qu'est-ce qu'un îlot de bonheur fait dans un océan de difficultés, de marées, de problèmes? Tu ne peux pas être heureux avec des gens malheureux autour de toi.
Mm-hmm.
Donc moi, je me vois toujours, je vois toujours ma réussite à partir d'une communauté, des autres là. Tous les Haïtiens sont riches, Roby est riche. Tous les Haïtiens sont heureux, Roby est heureux. Mais moi, me voir en tant que roi dans un pays où tout le monde y a des difficultés, non, c'est pas ma conception de vie ça.
Puis comment tu sens les difficultés, mettons, de d'autres immigrants qui ne sont pas haïtiens? Si tu vois ça, comment tu réagis à ça? Te dis-tu que chaque communauté a
leur
son tissu?
À leur réalité. Par exemple, ça fait 2 jours qu'il y a quelqu'un qui me parlait des Indiens de l'Inde qui viennent ici, là, des immigrants,
okay.
Et puis qui ont beaucoup de difficultés pour s'établir. Ils viennent à partir d'un programme, d'après ce que j'entends, à partir d'un programme, donc financent leurs études pour venir en tant qu'étudiant international. Et puis, les voilà, et qui se retrouvent ici. Ils doivent travailler pour rembourser l'argent emprunté. Et puis, ils n'ont pas de... Bon, voilà pourquoi on le voit travailler. Ils font tout. Et ceci, des fois, ils habitent dans une chambre par 2, 3, 4. Donc ça, c'est la réalité très dure à vivre, qui ressemble un peu à la nôtre, mais qui diffère un tout petit peu, parce que la majorité des Haïtiens qui viennent à Sudbury ne proviennent pas directement d'Haïti. Ils viennent pour des études. Des fois, ils viennent de Montréal, de Toronto, de Ottawa. Ils ont quand même une base. Derrière, s'ils ont vraiment un problème, ils peuvent retourner. Mais s'ils sont là pour une mission, pour des études, ils sont là. Donc, pendant cette mission-là, ils ont des problèmes.
Mm-hmm. Eh bien, puis, écoute, entre la soudure et la cuisine, il s'est passé quelque chose. C'est pas le même milieu. Qu'est-ce qui t'a amené de l'un à l'autre? Je suis curieuse.
La construction métallique, c'est ma première profession. Je suis entré à l'école à 18 ans, sorti avec mon diplôme à 21 ans. Dès lors, je travaille là-dedans. Je travaillais vraiment à Toronto en tant que chef soudeur dans une compagnie. Et puis, venir ici faire les études. Et puis, me retrouver maintenant avec un restaurant. Sorti du Collège Boréal, quand COVID est arrivé, je travaillais en tant qu'assistant administratif pour le Salon du Livre. Donc, ma tâche était de faire la coordination, les réservations de vol, d'hôtel pour le Salon du Livre qui allait avoir, c'était sa 6e ou sa 5e édition, comme ça, là, je ne me rappelle pas, là, c'était le nombre. Et puis, ma patronne m'a dit, « Bon, Roby, on a dit qu'il faut rester chez soi pour travailler chez soi. » Mais, OK, pas de problème, on peut prendre l'ordinateur, rentrer chez soi, mais les gens ne vont pas pouvoir voyager parce qu'on interdit les voyages. Donc, on est obligé d'annuler et l'événement. Donc, je me trouvais chez moi sans rien à faire. C'est vrai que c'était garanti qu'à chaque 2 semaines, la paix allait être déposée sur mon compte. Moi, ça ne suffisait pas, parce que moi, je dois bouger, je dois faire des choses. Et puis, je me suis dit, mais Le dernier dîner qu'on a eu, c'était une fête. On avait loué un espace, et l'association même. Et puis, on avait invité beaucoup de gens. Il y avait plus de 200 personnes. La presse était là, tout le monde était là. On a fêté autour d'un dîner. Il y avait des repas extraordinaires. Mais je me rappelle que les gens savent bien la cuisine haïtienne. Pourquoi ne pas prendre ce temps-là? Parce que même en tant qu'étudiant ou quoi que ce soit, régulièrement, j'invite les membres de la communauté à venir chez moi presque toutes les deux semaines autour d'un repas. On mange, on joue, on s'amuse, on danse et puis on se raconte des histoires. On parle le créole pour moi qui est une façon de vivre sa culture. Je me suis dit, maintenant, au lieu d'inviter, je vais dire à tout le monde que je prépare de la nourriture pour vendre, pour voir la réaction. C'est que c'est ce que je parlais à un autre membre. Elle m'a dit, oh, c'est une bonne idée. Et on a commencé à cuisiner chez nous. Elle cuisinait chez elle. Moi, j'allais prendre la nourriture et délivrer. Et on a passé des mois comme ça. Le dimanche, c'était la soupe au giraumont. Le vendredi, c'était le fritaille. Samedi, c'était bouillon. Les autres jours, c'était le riz collé. Il y avait du poulet, il y avait du poisson. Donc, les gens m'appelaient pour dire, « Oh, moi, Obi, je veux ça. » Moi, j'appelais la cuisine. « Prépare ça. » Et puis, je pars prendre la nourriture pour aller livrer. Au cours du chemin, j'apprends que vendre la nourriture fabriquée, faite chez vous, c'est illégal. Parce que le système de santé n'a pas contrôle. Ils ne peuvent pas vérifier pour garantir la santé des gens là. Donc, on doit prendre une décision. Arrêter ou foncer. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? OK, bon, je n'avais pas vraiment d'emploi. C'était encore COVID. Il n'y avait pas un changement structurel qui allait nous dire, OK, à partir de ça, on va... Mais c'était encore la même situation. Je me suis dit, alors, OK, on fonce. On fonce. Donc, on s'est mis à chercher un espace, un endroit pour créer une petite cuisine qu'on pouvait faire préparer les repas légalement et pour aller les livrer. On ne pouvait pas trouver d'espace. Parce que, contrairement à d'autres cuisines, à d'autres restaurants qui font les burgers, qui font la pizza, il nous faut un équipement anti-feu qui coûte à peu près 35 000 $. Donc, on ne peut pas trouver un petit espace avec cet équipement. Le seul endroit qu'on a trouvé, c'était cet espace-là. C'était hors budget, parce qu'on avait pensé que si on a ça comme loyer, on peut vraiment se débrouiller, même si ça ne va pas, mais on peut prendre un peu d'argent de notre vrai boulot, vrai emploi, mais on ne pouvait pas trouver. Donc, on a trouvé sur la dire qu'on va prendre le risque. Depuis 6 mars, on se lance et on a dit, OK, on a une entreprise, ça doit avoir un nom, ça doit avoir une structure, ça doit faire... Finalement, on a créé un restaurant, la cuisine tropicale, qui depuis 6 mars, qui met du goût dans la bouche des Sudbury.
Alors, te voilà devenu restaurateur après tout ça.
Restaurateur.
Wow, c'est formidable. C'est fou ce que la vie nous réserve, hein? On ne sait pas qui l'eût cru, là. Tu n'avais pas pensé à ça. J'arrive à Sudbury et finalement, je vais devenir restaurateur. Maintenant, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu te vois continuer restaurateur longtemps?
Oui et non. Mais c'est plus non que oui. Parce que l'idée de créer le restaurant, c'est même pas vraiment un restaurant que moi j'avais en tête. J'avais l'idée d'avoir une cuisine communautaire. Voilà pourquoi le nom légal du restaurant, c'est Cuisine communautaire haïtienne. Cuisine tropicale, c'est un nom d'enseigne. Mais le vrai nom, c'est Cuisine communautaire haïtienne. Parce que pour moi, si je voulais vraiment créer une entreprise pour devenir entrepreneur, ça, je te garantis, ça n'allait pas être un restaurant. Ça allait être peut-être une entreprise de fabrication, de construction, de quoi que ce soit, mais pas un restaurant.
Donc ici, tu le vois plus comme par rapport à ton côté solidarité, rencontre communautaire.
Un service à la communauté. Mm-hmm. Une façon de mettre à la disposition un outil. Ce restaurant, c'est un outil pour toutes les communautés. C'est pas seulement pour les Haïtiens.
OK?
Donc c'est peut-être on est les seuls à détenir une cuisine commerciale. Donc, au nom de cet appareil-là, au nom de tout ce qu'on peut faire, les équipements, on a une cuisine commerciale, ce qui nous permet de faire des choses, ce qui permet à la communauté haïtienne de faire des choses, à la communauté ivoirienne, à la communauté congolaise, de faire des choses pour leur communauté qu'ils ne pouvaient pas faire chez eux parce que c'est trop restreint, c'est trop petit, etc.
Donc, on peut louer ton restaurant ici pour
je la cuisine? Je ne dis même pas louer, on peut collaborer.
OK.
On peut collaborer, créer des programmes. Parce, au contraire, je suis en train de travailler avec un agent là pour implémenter un programme pour les aînés. Un programme de formation, un programme de passe-temps. Ils vont venir, on va s'arranger là, ils vont venir avoir à manger, avoir à jouer. Donc, c'est ça l'idée d'avoir une cuisine communautaire. Quelque part, que quelqu'un, les gens, une communauté, la communauté peut venir et puis dire, on va faire ça.
Mais il faut que ça soit viable financièrement. Comment tu vas t'organiser pour ça?
Financièrement, c'est quoi? Financièrement, la cuisine, le restaurant a des factures à payer. On doit se débrouiller là mensuellement. Il faut payer le loyer qui est énorme. Il faut payer les frais, tout ça. Voilà pourquoi on doit vendre les plats.
Donc c'est ça, c'est les deux.
Oui, je transforme.
Puis ça marche bien ce côté-là de vente de plats? Les gens, as-tu une bonne clientèle?
Ça marche super bien.
Excellent.
Quand je parle de super bien, je mets les chiffres à côté.
Okay.
Parce que quand je regarde les chiffres, là, cette balance-là, cet équilibre entre ce que j'en ai besoin pour faire face aux factures et ce qui rentre, ce n'est pas encore équilibré. Mais c'est ce qui arrive à toute entreprise.
Oui, puis quand la restauration, c'est quand même c'est tout un défi. Hein?
Non, tu peux investir des millions de dollars dans l'entreprise, mais tu ne vas pas commencer à rentrer de l'argent dès le premier jour, dès le premier mois, dès la première année. Ça prend un peu de temps pour établir, pour bâtir cette clientèle. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a déjà une clientèle fidèle. On a déjà des gens qui dépendent de cette cuisine. Il y a des gens qui m'appellent qui disent que moi, Roby, aujourd'hui, je veux manger ça. Mm-hmm. Quand je leur dis que mais tu veux que je fasse quoi là? Moi, c'est ce que je veux manger. Il y a des gens qui planifient déjà. Au début, quand on a lancé, c'était des gens qui venaient pour essayer, pour goûter. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne peux pas être malade? Mais après plus d'une année, il y a des gens qui disent, OK, la cuisine tropicale. Donc, ils m'appellent. Je veux ça. J'ai des gens qui m'appellent pour planifier des rencontres. J'ai des compagnies qui m'appellent qui disent qu'ils veulent nourrir 20 personnes, ils veulent nourrir 40 personnes. Donc, ils comptent déjà sur ce restaurant et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant.
Merci.
Créer une clientèle qui peut compter sur nous. Justement, on a besoin de plus de chiffres pour se sentir à l'aise. Plus qu'on y reste, c'est plus que ce chiffre-là va augmenter.
Donc, tu te vois là pour rester avec cette entreprise qui est à la fois nourricière, mais aussi communautaire, rencontre, vivre des choses ensemble,
oui.
Partager. C'est super. Oui. Sudbury, maintenant, pour toi, ça signifie quoi pour le reste de ta vie?
Dernièrement, j'ai eu la visite d'un ami de Toronto, et puis il m'a dit, mais Roby, tu es venu ici à Sudbury pour étudier, et puis ça fait déjà près de 10 ans. Il dit, mon cher, je ne sais pas, là, est-ce que c'est la route 401 de Toronto qui... Je suis tanné de cette route-là. Il y a toujours un embouteillage. Mm-hmm. Je dois toujours passer plus de 46 minutes en route là, pour rentrer chez moi après le boulot. Peut-être que je ne vais plus retourner à Toronto. Quand je suis entré à Sudbury, je me rappelle, dès le premier jour, même pour visiter le collège qui m'avait payé une tournée pour de visite, là, comme ils font pour la plupart des étudiants, je me dis, mais Sudbury, là, je ne vois pas de gratte-ciel, de grands édifices au centre-ville. Au contraire, je me rappelle que je demandais à quelqu'un, j'étais exactement au centre-ville, je demandais à quelqu'un, où est le centre-ville pour aller voir? Et la personne m'a regardé comme ça, m'a dit, mais comment, quel autre centre-ville? Donc, tu es au centre-ville? Le centre-ville, OK. Ça ne ressemble pas à un centre-ville.
OK.
Mais ce qui m'a attiré, ce qui me garde ici à Sudbury, c'est la tranquillité. Je sors de Toronto où un matin, je suis en retard du boulot parce qu'il y avait des policiers dans le parking de l'appartement et on m'avait bloqué, je ne pouvais pas sortir. Il y avait tellement de choses que tu as, à part des problèmes personnels, familiales que tu dois faire face avec, mais la vie sociale d'une grande ville, c'est très abusant. Je me vois en sorte
de... Ici, c'est tranquille, tu peux penser à ta journée sans qu'il y ait toujours un pépin qui arrive.
Exactement.
Quelque chose de fou.
Exactement.
Ouais.
Et puis, en tant qu'immigrant, quand on parle, il y a des gens qui disent, oh, ici, c'est un peu loin. Je leur dis, mais loin par rapport à où?
Ouais.
Loin par rapport à où? Qu'est-ce qui fait de Sudbury plus loin que Haïti et plus loin d'Haïti que Montréal? Donc, on est encore au Canada.
Ouais.
Au contraire, la troisième raison que j'aime Sudbury, c'est parce que moi, je suis créateur. Dans une ville comme Toronto, où tout est plus ou moins déjà été créé, il n'y a plus rien à faire. au contraire, ici à Sudbury, voilà, j'ai même eu la possibilité de créer une entreprise.
C'est ça.
De monter une organisation. Il y a encore plein de choses. Moi, je suis en pour parler avec beaucoup de responsables là, pour voir comment on va implémenter la vie des immigrants ici à Sudbury, comment on va augmenter le taux de rétention ici
sans
à Sudbury.
Ça,
c'est
des opportunités ici.
Il y a des choses à faire à Sudbury.
Je comprends.
Voilà pourquoi.
Je comprends. Puis là, tu as de la latitude pour être créatif, pour innover.
Voilà.
C'est chouette, ça. Voilà. C'est le fun. Fait que dans ce sens-là, tu sens que cette ville t'émancipe, te permet d'être toi-même,
oui.
D'aller au bout de qui tu veux être, puis d'essayer, d'expérimenter.
C'est ça.
Très intéressant.
Yeah, c'est ça.
Ouais, c'est super de pouvoir avoir ce sentiment-là, plutôt que de se sentir restreint et incapable de pousser des idées.
Juste une pièce dans une machine, ou juste un élément. Donc, toute la machine fonctionne.
Mm-hmm.
Toi, tu n'es juste qu'une vis. Non, moi, je préfère... être peut-être même la tête qui conçoit d'autres machines pour améliorer le service parce qu'il y a un besoin. Donc, dès qu'il y a besoin, je me sens confortable. J'ai une tête qui est toujours en train de travailler pour trouver des solutions.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui te manque le plus d'Haïti, pareil?
Le cerf-volant.
Ben, tu peux pas faire...
Même pas.
Il me semble que c'est le fun comme territoire pour faire voler des cerfs-volants.
C'est pas la même chose.
Non?
En Haïti, tu fais voler ton cerf-volant partout, n'importe où que tu veux, n'importe quel type de cerf-volant. Ici, tu peux pas parce que les fils électriques, la vie des autres, il y a beaucoup de choses à tenir compte de la sécurité des gens, mais en Haïti, t'es plus libre. Quand j'étais enfant, c'était mon jeu préféré pour confectionner mon cerf-volant. C'était le plus beau, c'était... Je passais des heures de la journée à monter. En tant qu'adulte maintenant, je rêve souvent d'avoir un cerf-volant.
Alors, il faut te trouver un champ où est-ce que tu peux laisser voler un cerf-volant?
Pas laisser voler, préparer,
ouais.
Confectionner.
D'accord.
Mon cerf-volant et puis je le sais.
Wow.
C'est tout. J'ai des amis que j'aimerais retrouver, que j'aimerais vivre avec. Ils ne sont pas beaucoup, mais... quand ça va, je pars en Haïti, je passe un peu de temps avec eux. Ça suffit un peu. Mais le cerf-volant, c'est grave.
Wow! Et c'est surprenant comme réponse, mais je te comprends. Il y a des choses comme ça qui nous font rêver, puis ça fait partie de notre imaginaire qui est difficile de s'enlever de la peau. Hein.
Ouais, il paraît que l'enfance, c'est peut-être le meilleur moment de la vie. Donc, il y a des souvenirs de l'enfance dont tu t'es attaché avec... en grandissant, tu peux devenir premier ministre, tu peux devenir ingénieur, médecin, etc., n'importe quoi dans ta vie d'adulte. Mais ce qui a vraiment marqué ta vie à un certain moment, le plus souvent, ça sort de ton enfance.
Toi, quand tu penses art, c'est quoi qui te revient en esprit le plus? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus que d'autres dans les arts?
J'aimais la peinture. Je touche très bien le crayon. Je peux dessiner avec le crayon les formes. Mais quand j'ai commencé à mélanger les couleurs, je ne suis pas allé trop loin. Je me suis rendu compte que ça prend beaucoup de temps pour vraiment maîtriser tout ça. Donc, je ne connais pas trop. Mais j'aime voir un beau tableau. J'aime regarder un tableau où ce n'est pas que l'artiste vient juste prendre un pinceau, faire quelque chose, puis met son nom, parce qu'il a déjà un nom, il peut faire n'importe quoi. Je regarde les détails, le temps que l'artiste a mis pour créer cette vue-là. Donc, j'apprécie ça beaucoup.
Est-ce que tu trouves qu'à Sudbury, on est bien... est-ce que tu sens que tu peux aller au théâtre, tout ça, tu y vas, est-ce que tu en profites, est-ce que tu trouves que...
Non, moi, je trouve que les autorités sudburyennes ne profitent pas vraiment assez de ce que Sudbury pouvait être. Sudbury est grand géographiquement et Sudbury a une très bonne réputation sur certains points, mais il paraît qu'ils veulent garder Sudbury autour des mines, ils veulent garder Sudbury autour des maisons de retraite pour les aînés, ils veulent garder Sudbury autour peut-être des écoles, et ce qui vraiment développe une ville, c'est une population, c'est l'attraction Donc, ça, il manque d'attractions touristiques ici à Sudbury. Il manque des endroits où les gens vont, peuvent aller puis passer un peu. On a les lacs. Parce que c'est presque c'est tout le monde c'est ce qu'ils font. On va au lac et puis après c'est quoi. Donc il y a plus de choses. Il devrait avoir des investissements pour créer des espaces, des endroits, des activités pour stimuler l'économie touristique ici à Sudbury.
Ben en tout cas là, bientôt il y a l'ouverture de la place des Arts. Alors je te souhaite d'en profiter entre autres. Je te remercie. De ton temps,
merci
de ton
beaucoup.
Précieux temps.
Merci à toi.
Puis, ben, j'ai hâte de goûter à Jean. On va choisir ça tantôt.
OK.
OK, salut, merci, Roby.
OK, au revoir.
Bye. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.